Salut, bienvenue dans Slap,
l'émission qui claque.
Aujourd'hui, on parle de hard rock slash pop en 2021. Et oui, c'est sorti là, c'est tout frais. Donc je vous conseille d'abord d'aller écouter la chanson dont on va parler aujourd'hui, voire l'album tout entier, parce que c'est plus simple pour comprendre.
Et puis c'est une pépite aussi.
C'est une pépite, très bon album, c'est vrai. Il s'agit de la chanson Holding Poison des Foo Fighters, d'un album sorti tout récemment qui s'appelle Medicine at Midnight. On a quelques suppositions quant à cette musique. En fait, l'album, il sort là, dans cette période de nonsense total.
Il est sorti en 5 février, le 5 février.
Le 5 février, voilà, précisément. C'est un album très typé années 70 qui sonne en fait très très Bowie, que ce soit dans les guitares, la voix sur tout l'album, et en particulier sur Medicine at Midnight, la chanson qui porte le même nom que l'album. En fait, c'est un petit peu une nostalgie du bon vieux temps. La pochette aussi rappelle l'époque... De la drogue, des soirées folles, des années 80, 90, les rave parties, tout ce qui va avec.
Des rockstars.
Donc l'album, il a été pensé, selon nous, comme un album de fête. Ils avaient déjà fait d'autres albums beaucoup plus acoustiques, des albums beaucoup plus rock, voire punk ou grunge, toujours dans le même style. Et là, ils nous sortent un album très festif, mais en même temps très sombre. Et dans la chanson Holding Poison en particulier, on a des sonorités très Bowie, que ce soit au niveau des percussions au début du premier couplet et les chœurs au pré-refrain qui sonnent très Bowie, hein, c'est normal. Donc cet album, en fait, il nous parle d'avant, peut-être pour oublier un peu aujourd'hui et cette période très bizarre.
Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la composition de l'album, Dave Grohl voulait faire un album qui soit très festif et qui puisse vraiment, au lieu de faire un truc vraiment 100% hard rock comme ils ont fait parfois, s'orienter vers plus du rock un peu plus cool, mais qui soit très dansant, très groovy et qui mélange finalement plein de sonorités un petit peu plus anciennes, comme a dit Mathis, vraiment un petit peu... du Bowie, mais en même temps d'avoir des sonorités beaucoup plus modernes avec leurs pattes à eux, et ce qui nous fait qu'un c'est un album qui réussit à toujours innover, parce que c'est un album qui est vraiment nouveau, enfin
il est frais.
Ouais, c'est un album qui est frais, qui est rafraîchissant et qui est vraiment très 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 bien fait. Et qui vous fera oublier que le rock est mort.
Ouais, et même le rock est pas mort grâce à cet album en partie. Bah oui.
Et ouais.
Et le rock, il est né comment chez les Foo Fighters? Tu pourrais me raconter un petit peu leur histoire.
Tout le monde ne connaît pas l'incroyable histoire de Dave Grohl. Dave Grohl, il a été batteur de Nirvana, donc pendant plusieurs années, dans les années 90. Et quand on est batteur d'un groupe aussi célèbre et aussi novateur que Nirvana, c'est compliqué de rebondir, hein. Et assez peu de gens arrivent à se passer à autre chose après la fin d'un groupe comme Nirvana. Et comme Kurt Cobain est mort, la fin du groupe est arrivée. Et Dave Grohl se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Et puis même il était presque en dépression, hein, parce que c'est quand même hyper dur de redescendre, à se demander qu'est-ce qu'on va faire. Et il a sorti un album tout seul. Il a enregistré tout, les voix, la guitare, la batterie, la basse. Et à partir de ce moment-là, il a petit à petit créé un groupe qui s'appelle les Foo Fighters, donc avec certaines personnes comme Pat Smear, le guitariste rythmique de Nirvana, qui est arrivé vers la fin du groupe Nirvana, et petit à petit, plusieurs personnes l'ont rejoint, notamment Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Chiflett ou Rami Jaffe, voilà. Et donc ils ont fait plusieurs albums. Et après 25 ans de carrière, finalement, on arrive quand même à se demander comment faire pour se renouveler, comment faire pour faire quelque chose de nouveau. Et Dave Grohl nous montre avec les Foo Fighters que on peut réussir à faire de la musique après 25 ans de carrière et que ce soit toujours aussi bien.
Voilà, ce qui est fou, c'est que même après autant de temps dans le domaine, ils arrivent quand même à sortir un album frais d'époque et toujours dans leur style. C'est assez incroyable.
Ouais. C'est vrai que c'est incroyable. Alors Mathis, comment ça se passe dans la composition de ce morceau? Comment il est fait, Holding Poison?
Jingle. Bah dans la composition, écoute, on est dans un truc très classique du rock, très classique des Foo Fighters, puisque on a couplet, pré-refrain, refrain deux fois, ensuite solo de guitare, pré-refrain et encore refrain pour finir en beauté, comme on a l'habitude chez les Foo Fighters ou comme on a l'habitude chez la plupart des groupes de rock. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un solo de guitare et c'est pas rare dans le rock, mais c'est rare chez les Foo Fighters. Cette partie solo de guitare, elle est en plus très 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 intense, puisqu'elle insiste sur des notes qui créent de la tension. Pour les plus musiciens d'entre vous, il faut savoir que cette musique est en si mineur et la guitare insiste sur un riff qui insiste avec la troisième note de la gamme, qui est la note qui va faire que c'est intense. Et on a un chœur qui chante en vibrato et qui insiste aussi sur cette note là ça crée une tension énorme, et en plus tout ça en triolé, ça vient accélérer le rythme, ça vient donner quelque chose de très intense, et c'est intense, hein, voilà, c'est ce qu'ils veulent, c'est intense, c'est réussi. Les instruments aussi, ils sont dans une formation classique, voilà, le groupe veut nous ressortir un classique, même après 25 ans, et je crois que ça marche en plus. On a donc batterie, guitare, rythmique, lead, une basse, une voix, des chœurs. Les chœurs extrêmement intenses, que ce soit sur le pré-refrain ou sur les refrains, et des petits chœurs du batteur Taylor Hawkins ou de Pat Smear, hein, évidemment. Et puis on sent aussi l'influence Nirvana, les guitares un peu crades mais quand même propres, c'est assez bien fait. Voilà, dans l'ensemble, la composition c'est un classique, mais en même temps elle est unique cette composition.
Ouais, et puis faut pas oublier les chœurs féminines qui apportent beaucoup de fraîcheur et de nouveauté dans cet album.
Oui, et puis les chœurs féminins sont aussi placés à des endroits clés. C'est des chœurs très aigus qui ajoutent de la tension et ils sont vraiment bien placés. La composition est très bien réfléchie.
Et ils sont présents vraiment dans tout l'album. Les choristes sont vraiment là dans quasiment toutes les chansons. Et ça apporte un aspect un petit peu différent, cet album. Un goût un petit peu particulier qui fait vraiment plus années 70, ouais.
Etienne, dis-moi, ce serait pas la minute guitare ?
Ouais, c'est la minute guitare.
C'est la minute guitare. Jingle !
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dave Grohl est un immense fan des guitares Gibson. C'est bien simple, il a une immense majorité de Gibson, sa guitare signature. Comme tout le monde le sait, bah, il y a deux grosses marques de guitares, Gibson et Fender. Et lui, il est du côté Gibson. Il a notamment une Trini Lopez de couleur bleue. Et pour les non-connaisseurs d'entre vous, cette Trini Lopez est très fortement inspirée des guitares jazz des années 50-60, puisqu'elle a été produite entre 1964 et 1971, mais en très peu d'exemplaires. 2000 selon le site guitarpart.fr. C'est une guitare qui a les mêmes micros qu'une ES-635, donc bah, les guitares justement associées au jazz, un petit peu du rock comme Chuck Berry, et qui a la même forme de corps. Finalement, les différences vraiment entre les deux guitares, ça va plutôt se jouer en termes esthétiques. Ce qui va changer, c'est surtout les repères sur le manche, qui va être un petit peu différent, et la tête de manche aussi est différente. C'est une tête de manche à la Firebird. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une guitare à corps creux, comme les ES, mais le motif qui va faire une sorte de petit trou pour voir le bois, et ben il est différent. Sur une ES, ça va être un symbole un petit peu arrondi, très spécifique, alors que sur la Trini Lopez, c'est une sorte de losange, voilà, de petit losange un petit peu fin. Il possède plusieurs Trini Lopez, en plein de coloris, hein, c'est ça aussi d'être aussi, aussi connu, c'est qu'il peut se permettre d'avoir plein de guitares et surtout beaucoup de modèles des Trini Lopez. Il en a une noire, il en a une bleue, il en a une rouge, il en a même une blanche, enfin bref, il en a dans toutes les couleurs. Il a aussi une Firebird Studio noire, donc toujours de chez Gibson, et puis une petite guitare acoustique, une Gibson Elvis Presley, une Gibson Elvis Presley Dove. Voilà, genre une petite guitare signature Elvis Presley, c'est sympa. En ampli, il utilise une Mesa Boogie Rode King Head. C'est un ampli qui a le crunch très facile. Donc le crunch, en fait, c'est la capacité d'un ampli à saturer le son, mais que quand on va jouer des coups plutôt forts, en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'accentuer l'intensité quand on joue fort et justement que ce soit un peu plus clair quand on joue doucement. Mais qui du coup va avoir un aspect quand même assez propre malgré le fait que ce soit très crunchy et du coup va pas faire un son trop gras comme des amplis un peu plus genre Marshall, type Marshall. Il a aussi un classique, un Vox AC30, donc c'est un ampli british qui a permis de faire le son de groupes connus comme Brian May de Queen ou U2, enfin bref, c'est un énorme classique des amplis. En pédale, lui, il en utilise pas beaucoup, il utilise surtout une petite distorsion, la Proco RAT, c'est une petite pédale, et il utilise aussi une delay de chez Boss, voilà. Comme il est pas tout seul en tant que guitariste, hein, ils sont trois, il y a aussi Chris Chifflet, il utilise lui plus une Telecaster de luxe et une Les Paul Custom de 1957, en doré. Ouais, elle est toute dorée. Chez Gibson, on dit que c'est une finition gold top. Moi, je la trouve magnifique. Pat Smear, lui, il utilise plus DSG et une Fender Jaguar spéciale avec des micros doubles. Après, voilà, les deux guitaristes vont avoir plus tendance à changer, que Dave Grohl reste quand même l'emblème un peu des Foo Fighters. Du coup, va vraiment garder sa Trini Lopez comme un petit peu un... Un petit symbole, quoi.
La guitare en elle-même est un emblème du groupe.
Ouais. Étant donné que c'est une guitare qui a été produite en peu d'exemplaires, bah c'est très compliqué de la trouver aujourd'hui. Et justement, Gibson ont fait une réédition il y a quelques années. Et ils l'ont appelée la DG335, comme pour Dave Grohl, quoi. Donc c'est vraiment ultra cool. Mais c'est toujours une édition limitée. Donc la DG335 est compliquée à trouver encore aujourd'hui. Ou alors il faut payer. Il faut payer un bon paquet d'argent. Explique-moi un petit peu, c'est quoi ? Qu'est-ce que veut dire cette chanson, Mathis ?
Bah cette chanson... Déjà, on va parler un petit peu de l'album en général avant de parler de cette chanson. L'album tout entier, il dégage une atmosphère très, très, très sombre. On a clairement le chant lexical de la drogue, parfois avec un langage métaphorique, mais pas toujours en fait. Dave Grohl, il dit simplement les mots comme il faut les comprendre, c'est-à-dire que quand il nous parle d'un truc, et bah, il le dit clairement, je vais pas citer parce que c'est triste, mais j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais voilà. Cet album est triste, il parle de la fête, et...
Mais pas que, il parle aussi, par exemple, de guerre, hein, Waiting on a War. Donc il va traiter de sujets un peu variés, mais ça reste un album un peu sombre dans les textes.
Oui, c'est un album sombre. En tout cas, dans Holding Poison, le poison dont nous parle Dave Grohl, c'est sûrement l'alcool, évidemment. Hein. Dave Grohl, il nous explique qu'il garde l'alcool en lui. Quand il dit Holding the Poison Down, littéralement, ça veut dire je garde le poison en moi, je le recrache pas. Il garde presque volontairement l'alcool en lui et garde le mal en lui, en fait. Ensuite, dès qu'on arrive sur le refrain, il nous dit qu'il tourne, il tourne, I spin around. Ça nous fait tout de suite penser aux effets de l'alcool, encore plus. La répétition, ça, elle insiste sur le fait que ça tourne et que ça va pas. Et ça finit le refrain à l'improviste, comme il le dit, tellement il a bu, il improvise, il sait même plus ce qu'il fait, il sait plus où il va. Ça s'appelle clairement combattre le mal par le mal. Il va mal, donc du coup, il boit pour aller mal. C'est triste. C'est Dave Grohl, c'est un texte très travaillé. D'un point de vue général, cette chanson, elle est très floue. Le premier couplet, on a du mal à le comprendre. En fait, Dave Grohl commence à se comparer à une machine, peut-être pour nous dire qu'il arrête de penser, qu'il se laisse contrôler par les drogues, par l'alcool. Mais c'est très flou, on a du mal à comprendre. Et puis, dès le deuxième couplet, tout est beaucoup plus clair. Il nous parle de ses sensations, I get the feeling, des trucs comme ça. Mais il nous dit que sa sensation, c'est qu'il peut rien faire. C'est qu'il est bloqué dans cette souffrance. Il est conscient du mal. Et il nous dit qu'il rêve d'aller mieux, mais qu'il n'y arrive pas. Il saigne, il est blessé. Il insiste sur le fait qu'il ne peut plus rien faire. C'est une idée qu'il reprend même à la fin du couplet. Il nous le dit deux fois. Donc il insiste sur le fait qu'il est bloqué dans ce monde où il peut rien faire. Et petit truc intéressant à dire, c'est que à chaque fin de couplet, on a un riff de guitare en triolet. Les triolets, en fait, ils vont accélérer le rythme. C'est intéressant. Et ça peut faire penser à un cœur qui se débat face à l'alcool.
Et qu'est-ce que c'est les triolets pour les gens qui connaissent pas trop, Mathis ?
Ben, un triolet, c'est simplement c'est une façon de diviser de manière ternaire, donc en 3, un temps. Un triolet, ça sonne comme ça. Voilà. Etienne, est-ce qu'on a des anecdotes sur cet album et sur ce groupe en général ?
Eh oui, 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 on a quelques petites anecdotes. Voici la première. À la base, Chris Novoselic, donc le bassiste de Nirvana, devait rejoindre le groupe. Mais finalement, ils se sont dit que ce serait mieux de pas le rejoindre parce que ça ferait trop un deuxième Nirvana. Et surtout que l'image du batteur de Nirvana est restée très 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 longtemps à Dave Grohl. Et beaucoup de gens disaient qu'il surfait sur la vague Nirvana et qu'il n'était pas légitime. Bon, aujourd'hui, après 25 ans... Je crois qu'on n'a plus besoin de le remettre en cause. Hein.
Il a prouvé qu'il était légitime et c'est un artiste polyvalent.
À part entière, ouais. Le nom Foo Fighters, je me suis souvent demandé pourquoi, quoi, d'où ça venait. Et en fait, ça veut juste dire chasseur de fantômes. Bon, ça, j'avais compris. Hein. Mais ça fait référence finalement à des phénomènes lumineux aériens du même nom qu'observaient les aviateurs de combat. Aussi bien donc des forces alliées que de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces observations furent révélées tardivement, chaque camp craignait que l'autre ne possède une technologie plus avancée. Différentes théories expliquent ces flashs. Il y en a qui parlent plus de phénomènes météorologiques et d'autres qui pensent que ce sont des ovnis. Et Dave Grohl était vraiment fan de ce mystère qui entourait tous ces flashs lumineux, quoi. Le 23 novembre 2015, 10 jours après le drame du Bataclan où se produisaient leurs amis des Eagle of Death Metal, les Foo Fighters sortent l'EP Saint Cecilia en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Donc en plus d'offrir l'EP en téléchargement gratuit, Dave Grohl appelle le public à faire des dons pour soutenir la victime. Ah là là, quel altruiste ce Dave.
Ah, il est bon.
En mars 2016, le groupe annonce qu'il se sépare de Dave, mais dément cette scission avant que c'est un gag qu'ils ont monté à la suite d'une rumeur sans fondement.
C'est un petit peu devenu Dave drôle.
Alors, pendant l'enregistrement de leur deuxième album, Every Color in the Shape, Dave a réenregistré en secret toutes les batteries de l'album. Il était vraiment mécontent du travail du batteur de l'époque, William Goldsmith, et quelques jours plus tard, quand William a appris la nouvelle, il s'est un peu disputé, il est parti. Ça se comprend.
J'aurais fait pareil. En bref, les Foo Fighters nous font commencer l'année en beauté, ou pas vraiment, en nous disant « c'était mieux avant », mais moi j'y vois plutôt une nostalgie du bon vieux temps, j'ai envie d'y croire. Et je préfère entendre un truc du genre « le meilleur reste à venir ». En tout cas, voir un groupe qui se renouvelle comme ça après une si longue carrière, c'est assez incroyable, c'est beau, le rock est encore debout, le meilleur reste à venir, j'espère.
Ça se trouve, ce sera un des meilleurs albums de 2021, qui sait.
Ce sera peut-être un des meilleurs albums de rock, en tout cas de 2021, on n'en sait rien.
Ouais. Voire même de la décennie, pourquoi pas.
De la décennie. On a la première année de la décennie, on verra bien.
voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis et d'avoir écouté ces deux premiers épisodes. Merci beaucoup.
Voilà. Et c'était Slap. L'émission qui claque.
Et n'oubliez pas d'écouter les Foo Fighters. Hein.
N'oubliez pas d'écouter l'album. Et portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.